Alors la magrefa s'est arrêtée. C'est-à-dire l'intervention de Pinchas a arrêté la magrefa. Alors je lis le verset. Pinchas ben Elazar ben Aaron Hakohen Eshiv et Hamati Me'al Bnei Israël a fait revenir ma colère de dessus les enfants d'Israël. Bekano et Kinati Betocham. Voilà, c'est ça sa question. Bekano et Kinati Betocham. Comment traduire ça en français? Lorsqu'il a été zélé de mon zèle en leur sein. Et là, on va avoir une définition. Qu'est-ce que c'est que ce zèle? Laissez les zélotes de côté. Okay. C'est le fait que lorsqu'on est dans une situation où tout le monde est paralysé, quelqu'un a le courage d'intervenir. Et un peu ce qui est arrivé à Hebron, d'ailleurs. Mais pourquoi tout le monde était paralysé? Le Midrash l'explique. Parce que c'était les grands d'Israël qui ont pris les princesses de Midian. Alors, qui devait intervenir? Et celui qui devait intervenir ne pouvait pas intervenir. C'était qui?
Moïse.
Pourquoi? Et voilà. Alors, vous voyez, dans cette situation-là, il faut que quelqu'un intervienne. Alors, c'est ça, Bekano et Kinati Betocham. Velochilite et Bene Israël, Bekinati. Et c'est pourquoi je n'ai pas détruit les enfants d'Israël dans ma, dans mon. Alors là, il faudrait traduire la colère-jalousie. Pas seulement la colère, pas seulement la jalousie, mais la colère-jalousie. On est renvoyé au terme par lequel la Torah définit Dieu dans son rapport avec Israël. Elkana. Elkana, ça veut dire exclusif. Ça veut dire, on a remarqué dans tous les panthéons, comme on dit en français, de toutes les religions, il y avait l'islam de côté, qui, l'islam est un monothéisme qui refuse absolument toute idolâtrie. C'est un monothéisme de l'unicité de Dieu, qui affirme que Dieu est seul à être Dieu. Ils ne connaissent pas le monothéisme de l'unité de Dieu, celui d'Israël, que ce Dieu qui est seul à être Dieu est un, Shema Israël, Hashem Elkeinu, Hashem Echad, alors que seul, ça se dit Yachid. J'ai remarqué d'ailleurs, j'ai exploré les traductions des Bibles, on a vu une cinquantaine. Toutes les Bibles chrétiennes traduisent Shema Israël, Hashem Elkeinu, Hashem Echad, comme si Echad, comme si à la place d'Echad il y avait Yachid. Écoute Israël, notre Seigneur est le seul Seigneur. Voilà comment traduit les catholiques. Okay. Notre Seigneur est le seul Seigneur. Ça n'a rien à voir avec ce que dit l'hébreu. L'hébreu dit Shema Israël, Hashem qui est le que nous, c'est un Hashem un. Unique, ça se dit Yachid. Un, ça se dit Echad. C'est clair? C'est important de voir ça. Et alors, ça nous fait comprendre que ça veut dire Elkana, qui est une relation exclusive entre Dieu et Israël. Cette relation d'exclusivité exclue, si j'ose dire, que Israël adjoigne quoi que ce soit au lien qu'il y a, qu'il a avec le Dieu unique qui est un. Alors ça c'est Meyuchad. L'expression complète c'est Echad, Yachid ou Meyuchad. Il y a une relation Meyuchedet avec Israël, spécifique, donc exclusive. Elkana, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... C'est pourquoi j'ai bien fait de mettre en évidence que derrière toute faute, il y a en fin de compte une faute d'idolâtrie. J'ai dit ça trop résumé. Derrière toute faute, il y a l'amorce du risque de la faute d'idolâtrie. Je m'explique. Je vous donne un exemple que le Talmud a donné. Le Talmud a dit « Koetz keilu oved avodazara ». Celui qui se met en colère est comme s'il était idolâtre. Le « comme si » est important. « Keilu ». Et alors, comme pour tout à l'heure, on peut se demander, bon, c'est une faute grave. Pourquoi le Talmud n'a pas expliqué en quoi c'est une faute grave? Pourquoi il est allé d'emblée à comparer ça à l'idolâtrie? Quel rapport entre la colère et l'idolâtrie? Est-ce que ça veut dire que les rites de l'idolâtrie sont des rites de colère? C'est vrai aussi, mais c'est pas visible. C'est vrai aussi d'ailleurs que les rites de l'idolâtrie sont des rites de débauche. C'est vrai aussi, mais c'est pas toujours visible. Et les rites de l'idolâtrie sont d'abord des rites de l'idolâtrie. J'ai envie de dire, je vous donne une parenthèse pour dire à quel point on est en dehors, on est loin de ce que les rabbins ont enseigné. Pshat, il faut comprendre l'enseignement du Talmud toujours à la lettre. Et de la traduction la plus simple, c'est la plus profonde. Et, je ne sais pas si vous vous rendez compte quel est le mythe de l'adoration chrétienne. Sans entrer dans les détails, c'est l'idolâtrie la pire, le meurtre le pire et la débauche la pire. L'idolâtrie la pire, c'est l'homme qui se prend pour Dieu. Le meurtre le pire, c'est un père qui tue son fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la débauche la pire, c'est un gosse qui naît sans père. D'où il sort. Alors c'est ça qui est soumis à l'adoration des foules. Et ça marche. Il faut savoir ce qu'il y a derrière ce mythe. Et derrière toutes les ravelots, il y a toujours... en fait, bon, je reviens à la question de la colère. Eh bien, je crois que je l'ai expliqué une fois. C'est-à-dire, si la colère n'est pas réprimée, elle aboutit au meurtre. C'est clair. Mais qu'est-ce que représente le meurtre? Le meurtre, ça veut dire, ça implique, ça sous-entend que je n'admets pas que celui qui m'a créé a créé l'autre. Comme si c'est quelqu'un qui m'a créé à moi et c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé à lui. Vous avez compris le problème? Ça veut dire que, effectivement, il y a l'amorce de la conduite d'idolâtrie. Alors, voilà ce que je voulais expliquer dans le terme de Kin'a. Elkana. Et il y a une analogie qui nous met sur la piste quelque chose de très profond. C'est qu'il y a deux mots Kana en hébreu. Kana, kuf nun aleph, c'est l'exclusif. Et Kana, kuf nun he, celui qui acquiert. Ça veut dire, nous sommes le Kinyan de Kadosh Baruch Hu. Par rapport à nous, il est Elkana. Et avec kuf nun he. Alors ça entraîne, ça implique qu'il soit Elkana avec Kouf Nun Aleph. Il y a un lien de plus. C'est clair? Donc, allons en avant. La chenemo, il nous fait l'autre vérité shalom. C'est pourquoi, dis-lui, je vais traduire un peu nuancé. D'abord littéralement, Hineni, me voici, notenlo, je lui donne, donnant à lui. Je traduis autrement. C'est à lui que je donne. Et vérité shalom, mon alliance, paix. De paix. Vous voyez, l'alliance de paix ne peut être conclue qu'avec les Canaïm, que par les Canaïm. Il n'y a que c'est clair, mais que si les Canaïm font la paix, que c'est la paix. Si ce n'est pas les Canaïm, c'est pas la paix. Tout le monde a compris, j'espère. Okay. Quand le Rav Levinger signera la paix, ça sera la paix. N'allez pas dire que j'ai dit que c'est un zélote, c'est pire. Bon. Alors voilà en tout cas pour la première question. On va aborder, si vous voulez, la question du... Je pense que c'est facile à comprendre, ce que je viens de dire là. Okay. Si ce sont des lâches qui signent la paix, c'est pas une paix. C'est une lâcheté. Ça me rappelle, parce que j'ai vécu ça, la paix de Munich. Vous vous rappelez Munich? C'est tout à fait ça. Mais si c'est De Gaulle qui signe la paix, alors c'est pire. Ça, c'est évident. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne boivent jamais de l'eau des viandes. Vous savez, j'ai un cousin. J'ai un cousin, chaque fois qu'on prend la misette, il vérifie si c'est de la viande ou du vitel. Et maintenant, je vais avoir des cousins qui ne joueront plus aux osselets, à cause de l'accord d'Oslo. Alors, je reviens. Au sujet. Vous allez prendre un rachis qui me semble extrêmement important. Attends, donc, je dois rentrer dans les... Quoi, il est déjà 7h30?
Oui, encore un quart d'heure.
Encore un quart d'heure, oui. Je vais vous dire, je suis obligé de partir à 8h15. J'ai une autre mitzvah ailleurs. Mais le fait que je parte, ça ne doit pas empêcher le minyan de fonctionner. Alors, je laisserai la clé et puis je mettrai la voiture. Tu vas ramener. Alors, prenez donc le chapitre 26. Voilà. Quand vous lirez ce chapitre 26, vous verrez qu'il y a ce dénombrement. Et puis, vous remarquerez une particularité par rapport à tous les autres dénombrements. C'est que... Ah, tu as toutes les clés là? Et prends encore en bas. Ah, très bien, alors c'est bon. Vous remarquerez qu'à certains épisodes, la Torah explique pourquoi un des noms des familles d'Israël a disparu. Et c'est très particulier pour ce récit de dénombrement. Vous savez que très souvent il y a des récits d'énombrement dans la Torah pour la génération de la sortie d'Égypte, à la sortie d'Égypte, dans les différents épisodes, celui-là est le dernier, avant d'entrer pour l'héritage du pays. Mais jamais il y a de façon aussi explicite la raison pour laquelle un tel ou tel, son nom a disparu parce qu'il est mort et dans quelles circonstances. Et, comme on l'a appris d'ailleurs à d'autres occasions, ce dénombrement a ceci de particulier que la tribu de Lévi est dénombrée à part. Entre-temps, il y a séparation entre les tribus d'Israël et la tribu de Lévi, vous vous souvenez de cela. Alors nous allons commencer par un rachu sur le verset 36 du chapitre 26. Vous recoderez vous-même les indications qu'on va apprendre. Lisez ce rachis, je lis ce rachis, suivez-le. Verset 36 du chapitre 26. Ve'ele bene shutelah, ce sont des enfants de Ephraïm. She'ar bene shutelah, nikreut olotehem al-shem shutelah. Vous y êtes? Umeharan, yatsa mishpacha rabba, venikret al-shmo. Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité dans le verset. Ele bene shutelah, ve'ele bene shutelah, le'aran, le'aran, mishpat a'erani. Or, shutelah avait déjà sa propre généalogie au verset précédent. Ele bene Ephraim, mishpachotam, le shutelah, mishpat a'shutelahi. Et Becher, le Shparta Bakri. Tiens, vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent Bakri. Ils ont leur Shoresh là. C'est surtout des Algérois, il me semble. Les Bakri. Ah ben oui, c'était la fameuse. L'éventail d'Alger. C'était un certain Bakri. Vous avez oublié ça? Non, Roland Bakri est un descendant de ce Bakri là. Pourquoi la France a conquis l'Algérie? Parce qu'il y avait une tractation de blé à travers un certain Bakri qui était négociant en blé, et puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, le dé d'Alger s'était mis en colère contre l'ambassadeur de France, il avait giflé de son éventail, ça me revient par bris, et la France a conquis l'Algérie. Et c'est pour ça que je vous parle français. C'est Roland Bakri, ça va ça. Le Tahan Mishmahat Adamachi. Et le verset reprend, Ve'ele bene shutelah, le'aran mishpahat a'aran. Verrez vous-même ce sur quoi Rashi enseigne. Et alors, on avance. Tse Urshov compte le nombre des familles, dit Rashi. Ve'timtsa, be parasha zu, tu trouves dans cette parasha, Chamishim ve'sheva mishpechot, 57 familles. Ben et Lévi, Shmona, et des Lévites qui sont dénombrés plus loin, 8 familles, Are Shishim et Chamesh. Ça fait en tout 65 familles. Vezeu Sheneemar, et c'est ce qui est dit dans Dvarim chapitre 7, s'il me semble bien, dans le livre de Dvarim, ça doit être au verset 3, mais vous vérifierez. Il y a un verset qui dit, ce n'est pas Kilom et Rubechem. Ce n'est pas parce que vous êtes un peuple nombreux que je vous ai choisi, qui atem hamat mikola amim, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Ça veut dire, il ne faut pas qu'Israël croie que c'est de son mérite, c'est son mérite qui rendra compte de l'alliance que Dieu a décidée pour lui. Dans le contexte là-bas, dans ce chapitre 7 de Devarim, la Torah explique, cela vient des patriarches. Et pas de tout autre argument qu'on pourrait dire. Nous sommes le peuple le plus intelligent, nous sommes le peuple le plus nombreux, nous sommes le peuple le plus. Tout ça, c'est vrai aussi, mais c'est secondaire. Hein? En réalité, c'est Dieu dit, c'est parce que j'ai choisi vos pères. C'est vos pères que j'ai choisi. C'est Abraham, Isaac et Jacob qui sont les garants de l'alliance. Et c'est dans la mesure où nous sommes authentiquement fils d'Abraham, Isaac et de Jacob que nous sommes Israël. C'est clair. Cette expression, Elokei Abraham, Elokei Israël, Elokei Jacob, qui définit Israël, Elokei Israël, c'est vraiment le principe qu'il faut retenir. Encore une fois, toutes les explications qu'on donnera pour expliquer cet inexplicable, le cas d'Israël au milieu des nations, Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une blague, c'est vrai aussi tout ça. Et, mais là, en réalité, il faut revoir ce contexte, ça vient des patriarches. Donc, et ça vient des patriarches, c'est eux le résultat de cette sélection d'identité, de l'identité araméenne d'origine, à la sortie de Babel, qui redevient hébreu, et donc devient Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Alors voilà, quand nous dit Rashi, « Kiatem ha-ma'at mikola amim » Tu es sur le texte. « He me'at » Ça veut dire « cinq de moins ».« Ha-ma'at » Le pshat, c'est le plus petit. « Ha-me'at » Mais il le lit comme ça, il va donner sa source. « Cinq de moins que tous les peuples. » Les peuples sont au nombre de 70, et voilà qu'après le dénombrement, on s'aperçoit qu'il n'y a que 65, on est 5 de moins que le nombre des peuples, Israël ne peut pas jouer son rôle. Atem haserim mimishpechot kolamim. Vous êtes moins nombreux que le nombre des familles de la terre, Shem Shivim. Et Rashi ajoute, Av ze hevanti mi yosoddo, shel Rabbi Moshe Adarshan. Ach usrachti yefachot, ulosif vidzorab. Et il cite un de ses maîtres, dont on a perdu trace de ses œuvres. C'est Rabbi Moshe Adarshan qui vivait à Narbonne. On l'appelle Rabbi Moshe à Narboni. Le nom de Narboni que beaucoup de familles portent, c'est les juifs originaires de Narbonne, et en particulier de ces familles de rabbins, qui étaient très célèbres dans le judaïsme de Provence. J'ai dans ma bibliothèque un livre d'un midrash sur Machir Ben Yosef, attribué à Rabbi Moshe Adarshan de Narbonne, qui a été édité par des moines d'un couvent de Narbonne qui auraient retrouvé, tout ça faudrait vérifier, auraient retrouvé un manuscrit dans une bibliothèque chrétienne de l'époque. Si un jour ça vous intéresse, c'est un midrash un peu suspect parce que c'est sur le Messie souffrant. Et alors, mais c'est un moine narbonnais, si c'est comme ça qu'on dit, qu'il a recopié en hébreu à la main, calligraphié, un travail de moine. Voilà. Alors on n'est pas sûr que c'est vraiment authentique parce qu'on n'a jamais trouvé le manuscrit lui-même. Vous savez, il y a énormément de manuscrits qui sont cachés dans les bibliothèques chrétiennes, surtout au Vatican. Le jour où on pourra avoir accès à ces sources-là. Donc, alors voilà quel est le problème. C'est qu'il y a vraiment un drame qui se prépare. Or, le salut a été apporté par un récit que vous avez avant et après. Vous avez, en tout cas, dans le récit même du dénombrement. Je veux dire d'abord qu'en réalité, il manque six noms. Vous le retrouvez par vous-même. C'est Datan Vabiram, Nadab Abihu, Tselophrad, Korach, ça fait 6, ok?
6.
Ça fait 6. C'est le frère de Korach. Et alors, on apprend que les filles de Tselophrad avaient réclamé leur part d'héritage, précisément, et donc leurs noms, leurs 5 noms, ont restitué le chiffre de 70. C'est clair, elles ont fait le tikkun de ce. C'est pour ça qu'on les appelle Nashim Satkaniot. C'est grâce aux filles de Tselophrad qu'Israël est Israël. Alors ce thème des Nashim Satkaniot est très important, il me reste une minute. Chaque fois qu'Israël est en péril, on voit que les femmes en vert, pas les femmes en noir, interviennent pour le sauver. Non, mais d'une façon générale, il est évident que la Itororerut de Tzad HaNukbi, comme on dit dans la Kabbalah, qui est extrêmement important, c'est le dernier hé du Shem, c'est ce hé qui manquait là, qu'ils ont réintégré dans les 70. Et je vous en donnerai deux exemples qui me semblent extrêmement importants à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a été rendue possible grâce à l'intervention de Myriam et de Yochevet, la mère et la sœur de Moïse. Vous vous rappelez de l'épisode. Lévi avait décidé qu'on arrêtait de faire des enfants, puisque ça servait qu'à les jeter dans les pyramides. Et puis, c'est Myriam qui intervient. Et les sages-femmes, les mères d'Israël, grâce à ces sages-femmes, qui ont assuré la perpétuation d'Israël. Puis un tout autre épisode de l'histoire, c'est l'intervention de la reine Esther. Et je crois que, bien évidemment, de notre temps, il y a une présence de plus en plus grande de prise de responsabilité des femmes d'Israël dans la vie de la société juive, et israélienne en particulier, qui est extrêmement importante, qui a toujours existé, mais jamais à cette échelle. Je pense en particulier à un groupement féminin à Paris qui fait beaucoup de choses pour la communauté à Paris et qui s'appelle la coopération féminine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Et d'ailleurs, à l'inauguration de leur comment dire, activité il y a très très longtemps, c'est ce cours-là que j'avais fait. Elles étaient encouragées. Bien. Alors vous allez donc rester pour faire Mignan. Et on se voit la semaine prochaine pour la paracha suivante.